C'est vous qui le dites. Présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 14 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Vous avez toujours hésité à partir à l'étranger, à vous lancer dans l'aventure qu'est Erasmus, et vous ne savez pas si votre niveau de langue vous le permet. Ouvrez grand vos oreilles, car on parlera tout à l'heure d'Erasmus et du bilinguisme. Vous avez envie de sortir tant que cela est encore possible et d'écouter du blues par la même occasion. Vous tombez bien, on vous fait découvrir l'Aber Blues Festival qui se déroule du 23 octobre au 29 novembre. Et pour en parler, avec nous, Isabelle Gibaud, bonjour.
Bonjour.
Isabelle qui s'occupe de la programmation. Et Fabienne Leca, bonjour.
Oui, bonjour.
Fabienne qui est la présidente de l'association Hot Club Jazz Iroise qui organise le festival. Donc le festival de blues se déroule sur plusieurs villes, par exemple à Brest, mais aussi à Saint-Rénan, ou encore au Conquet, ou à Locmaria-Plouzanier par exemple. Pourquoi faire quelque chose qui se déroule sur plusieurs villes?
Alors, d'abord c'est un festival itinérant depuis le début. C'est comme ça, on est essentiellement sur le pays d'Iroise. Et on s'est étendu sur les deux autres abers, l'aber Benoît et l'aber Vrac. Donc c'est pour ça qu'on a mis un S à aber. Et en fait, c'est une animation qu'on met à chaque commune, un partenariat avec les communes ou les structures, et qui nous permet en fait de faire découvrir le blues en milieu rural. Et donc voilà, ça existe depuis 10 ans. Là, c'est la 10e année. Donc voilà.
Et c'était important pour vous de mettre en avant des musiciens et des artistes qui sont a priori tout juste émergents pour certains.
Pour certains, mais pas seulement. Là, je vais laisser parler Isabelle, qui est la programmatrice. Mais c'est vrai qu'on a fait un choix très éclectique. Et à chaque fois, on le fait très éclectique et dans les styles aussi, pour contenter un petit peu un large public qui aime le rock, qui aime le blues rock, qui aime le bluegrass, qui aime le boogie. Enfin voilà, on a à peu près tous les styles de musique. Et on a effectivement des groupes émergents. Ou des groupes locaux aussi. Et bon, cette année, on fait venir. D'habitude, on fait venir aussi des étrangers, surtout des États-Unis. Et bon, là, cette année, c'est un peu particulier. Donc, on a préféré s'assurer d'avoir des groupes français. Et donc, mais voilà, c'est. En fait, on marche au coup de cœur aussi. Je sais pas, Isabelle, hein, c'est surtout au coup de cœur qu'on marche. Et puis aussi des voilà, des groupes qu'on avait envie de faire venir, qu'on connaissait depuis longtemps, et donc voilà, ça se passe comme ça à peu près la programmation.
Oui, c'est ça. C'est pas forcément, on se dit pas, on va programmer des groupes qui chantent depuis très longtemps ensemble ou pas longtemps. Enfin, voilà. Oui. Bon, la plupart jouent depuis longtemps ensemble quand même. Il y a très peu de jeunes groupes à part Lionel, mais ils ont quand même de la bouteille. Ils ont participé à d'autres groupes avant, donc. Non, c'est quand même pas mal de groupes qui ont beaucoup d'expérience.
Et vous parlez de coups de cœur par rapport au choix des artistes. Mais bon, j'imagine que des coups de cœur, on pourrait en avoir beaucoup. Comment, parmi tous ces coups de cœur, on fait la sélection de certains artistes en particulier?
Ah là là, c'est difficile.
C'est avec les partenaires, hein.
Oui, alors Isabelle prépare. Je vais la laisser parler après tout.
En fait, moi, je vais un peu à la pêche aux informations avec Internet. C'est très facile. Et aussi, on peut. On discute un peu autour de nous aussi, entre nous, mais même avec d'autres personnes qu'on peut rencontrer tous les jours. Et donc, moi, j'ai toujours une oreille qui traîne. Je prends des notes et puis ensuite, je vais voir. Et voilà. Donc, après, donc, on fait une liste. Enfin, on prend des renseignements auprès des artistes. On a tous les renseignements de base, en fait, hein, voilà, qu'il faut. On a même des bios, enfin, voilà. Et donc, on les propose aux différents partenaires. On leur propose un choix assez large. Et donc, ce sont eux qui... Mais souvent, eux ont un coup de cœur. Mmh. Souvent, même, on leur demande de choisir deux, trois, parce que si jamais un groupe n'est pas libre, non, ils disent, voilà, je veux ce groupe-là. Donc, ouais, on fait tout pour leur faire plaisir aussi. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et du coup... La programmation, c'est pas forcément ce que nous, personnellement, on aurait imaginé. Il y a toujours la surprise et je trouve que c'est très bien.
Mmh, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelquefois des coups de cœur qu'on laisse de côté, mais qu'on remet sur la liste l'année suivante. Et puis on découvre d'autres pépites aussi. Il y a vraiment des découvertes intéressantes à chaque fois. Mmh.
Il y a aussi des artistes qui sont venus plusieurs fois, comme Paul Collet, déjà venu il y a 2 ans. Fred Chapelier, déjà venu 2 fois. Il devait venir l'année dernière, mais bon, ça avait été... Il n'avait pas pu venir. Donc, c'est pour ça qu'il revient aussi cette année, parce qu'il fait des masterclass aussi en même temps. Donc, Cisco est déjà venu. Cisco Erzaf, c'est déjà venu. Ben Touri est déjà venu aussi. Donc, voilà. Ils sont toujours contents, d'ailleurs, de revenir. Hein. Ils sont bien accueillis. Ouais. C'est bon signe. Hein.
Il y a une bonne ambiance après. Hein.
C'est surtout le...
Ouais. Et non, c'est le public apprécie aussi. Et bon, quand ils reviennent aussi, c'est avec des nouveaux groupes, des nouveaux musiciens, des albums à sortir. Donc il y a toujours des choses à découvrir, quoi.
Et cette année, c'est Fred Chapelier qui parraine le festival. Pourquoi Fred Chapelier ?
Fabienne, tu veux répondre ?
Alors, Fred Chapelier, on le connaît, on l'avait fait venir effectivement plusieurs fois. Bon, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup en tant que personne et en tant que musicien. Forcément, c'est un excellent musicien de blues, même si on l'a vu déjà dans Les Vieilles Canailles, c'est le guitariste attitré de Jacques Dutronc. Mais c'est un excellent guitariste de blues et qui aime transmettre aussi aux autres. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de masterclass avec lui. Donc il y en a encore qui sont... Il reste quelques places, Isabelle, tu le diras tout à l'heure. Oui. Et parce que l'an dernier, on devait le faire venir, il n'a pas pu venir. Et cette année, on s'est dit, tiens, pour la 10e année, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le musicien qu'on aimerait devenir le parrain pour cette 10e édition ? Et alors, ça nous est venu d'emblée, Fred Chapelier. Donc voilà, et c'est vrai que quand on lui a proposé, il a accepté tout de suite, il était ravi d'être le parrain de cette 10e édition. Et c'est vrai que, on l'apprécie tellement en tant que musicien et puis en tant qu'il nous a donné des conseils aussi sur les groupes. Hein, oui. Apparemment, il a travaillé beaucoup avec Isabelle aussi pour le choix des groupes aussi pour le. Et non, c'est quelqu'un qu'on apprécie et qu'on avait envie de mettre un petit peu en avant dans notre festival.
Et il fête ses 25 ans de carrière cette année. Voilà,
bien sûr.
Donc c'est une année importante pour lui aussi. Oui,
c'est vrai.
Tout à l'heure, vous le mentionniez un peu, mais est-ce qu'à cause du Covid, vous avez plus d'artistes locaux que d'habitude ?
C'est vrai qu'on a pas mal d'artistes qui viennent de Bretagne. On ne fait pas attention vraiment à ça. On essaye quand même d'avoir des artistes locaux. Ça, c'est sûr qu'on essaye de maintenir ça aussi. Mais on ne fait pas tellement, dans le choix que l'on fait, ce n'est pas tellement ce critère-là qu'on retient.
Il y a eu quelques petits changements quand même. On avait une Américaine qui devait venir.
Oui.
Malheureusement, ça a été... Voilà. Elle n'a pas voulu... Elle a annulé sa tournée, en fait.
Voilà. Je vous dirais, oui, c'est le coup de cœur, notre coup de cœur, parce que la première liste que Isabelle adresse avant les partenaires, c'est au conseil d'administration. Et donc, c'est vrai qu'on marche plus au coup de cœur et aux envies de découvrir autre chose aussi que des festivals précédents, quoi, le critère de choisir avant tout les locaux, non, c'est pas un critère qu'on retient.
Et est-ce que malgré ça, parce que vous avez des artistes locaux quand même, mais vous avez aussi des étrangers, malgré le contexte avec le Covid, par exemple Elliot Murphy, est-ce que le but c'était quand même de montrer que le blues n'est pas évidemment que français et peut vraiment dépasser les frontières ?
Oui, le blues c'est la musique de l'âme. Donc ça peut être du blues français, mais ça peut être du blues belge, ça peut être du blues européen, ça peut être du blues américain. Et forcément, en Amérique, aux États-Unis, il y a énormément de musiciens de blues très intéressants. Elliot Murphy, il est né à New York, il a vécu pas mal de temps à New York, mais il vit à Paris là maintenant. Et c'est vrai qu'on a quelques musiciens à chaque fois, à chaque festival qui viennent des États-Unis, qui sont extraordinaires. Et cette année, donc, par rapport à la situation actuelle, on a préféré ne pas choisir ces groupes-là. Mais il y a du choix dans, je dirais, en Europe aussi. Il y a d'excellents choix dans les groupes.
Donc vous l'avez dit, je suis fatiguée. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous marchez surtout à coup de cœur, mais est-ce que c'est quand même important pour vous que dans les artistes et les groupes qui se produisent pendant le festival, il y a quand même cette mixité en termes de genre ? Donc il y a autant des femmes que des hommes.
Ah, alors ça, c'est un bon sujet. Oui, c'est une bonne question. Oui.
L'an dernier, on s'est aperçu qu'on avait fait venir qu'une femme qui était musicienne et chanteuse en même temps. Et on s'est dit, là non, ça va pas du tout. Il faut vraiment qu'on essaye de porter plus les femmes en avant, que ce soit musicienne ou chanteuse. Donc on a essayé cette fois-ci, dans ce répertoire-là, dans ce programme-là, de mettre en avant un peu plus de femmes. Donc on a des chanteuses, on a des musiciennes aussi, on a une harmoniciste qui joue avec Cisco le 24 octobre. Donc c'est rare de voir des femmes jouer de l'harmonica. On a aussi pas mal de chanteuses. On a aussi Gladys. Alors oui, si on parle de Gladys, on l'a fait revenir, Gladys Amorose, qui vient le 28 novembre. Ça a été le premier groupe qui est venu pour la première édition du festival Aber Blues. Et donc c'est un groupe qui est excellent. On a eu de très bons rapports avec eux, mais vraiment c'était très très agréable. Et puis ils ont fait une prestation vraiment de qualité. C'était vraiment très très bien. Et donc on a tenu à les faire revenir pour la deuxième édition. C'était un clin d'œil en fait par rapport à la première édition. Et donc on l'a fait venir en quintette cette fois-ci. Et on invite Nico Wen Toussaint, qui est un harmonististe. Donc il y a ce groupe-là, c'est vrai qu'on avait envie de les faire venir à tout prix par rapport à voilà ce rappel de par rapport à la première édition. On a essayé cette année de mettre un peu plus en avant les femmes. Après, c'est le choix des partenaires, donc qui ont fait que il y a des soirées où il n'y a pas de femmes, mais qui c'est pas grave, c'est très bien aussi quoi. Mais on a essayé de mettre un petit peu de mettre à égalité un petit peu les femmes et les hommes musiciens quoi.
Il faut dire que vocalement, je suis pas féministe rien du tout, mais vocalement elles sont d'un très très haut niveau, les femmes là, Sophie Malbec, Gladys, Gypsy dans le groupe Lionel,
c'est des sacrées.
Elles ont des
femmes.
Voix qu'on reconnaît après, qu'on reconnaîtra tout de suite après les avoir entendues. Hein.
Sacrées voix et puis il faut les découvrir aussi parce que elles sont vraiment intéressantes. La Sophie Malbec, elle est vraiment intéressante. C'est un petit bout de femme. Quand on la voit, on se dit c'est pas possible qu'elle ait une voix puissante comme ça. Elle est vraiment extraordinaire. Il y a Gypsy aussi, elle a une voix vraiment une voix de blues woman quoi. C'est une voix forte, puissante. Il y a plein de choses à découvrir là, ce programme.
Et donc il y a beaucoup de concerts, mais il y a aussi des masterclass, vous en parliez tout à l'heure, comme celle du samedi 21 novembre de 9h30 à midi au Conquet, qui est une masterclass de guitare électrique avec Fred Chapelier. Mm-hmm. Pourquoi ce choix d'intégrer des masterclass?
Alors, je vais laisser parler Isabelle et après je reviendrai sur les animations. On essaye... vas-y, pour les masterclass.
Oui, c'est parce qu'on essaye de profiter de la venue d'artistes qui donnent des masterclass. En fait, il y a certainement d'autres qui en donnent. Là, c'est uniquement avec Fred Chapelier. Enfin, c'est avec Fred Chapelier. Il devait faire des masterclass l'année dernière et comme il n'a pas pu venir, on avait plus ou moins promis quand même aux personnes qui étaient très déçues de pas pouvoir suivre qu'on allait... refaire au plus vite, réorganiser ça au plus vite. Donc l'année dernière, il n'y en avait qu'une. Et en fait, cette année, on est à la quatrième séance. On est en train de... Voilà. Bon, c'est pas encore complet. Il y a encore pas mal de places. Donc le Conquet s'est greffé un peu après. Donc le Conquet, il y a encore plein de places. L'après-midi du 21 novembre, il reste encore 3 places. À Milizac, Guy Pronvel. Et sinon, en octobre, donc pour la première venue de Fred, parce qu'il vient 2 fois sur le festival... Il y a une séance masterclass, là c'était la demande de Steven Lebert qui a une école de guitare à Quimper. Mm-hmm. Donc il souhaitait faire une séance, donc il a la séance complète déjà depuis un petit moment. Donc là ça va être la toute première, le samedi 24 le matin à Quimper et l'après-midi à Loc Maria Plouzané. La séance est complète aussi. Donc voilà, mais si quelqu'un veut s'inscrire, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du Yacht Club Jazz Iroise et on peut leur donner les informations pour pouvoir s'inscrire.
Et sinon, pour revenir pour les animations, on profite effectivement des musiciens pour essayer de mettre en place, d'ancrer un petit peu le festival sur le territoire en apportant aussi des animations dans les écoles ou dans les foyers, etc. L'an dernier, on avait fait un atelier Fabrique ta cigar box qui avait excellemment bien marché. On a fait à peu près une centaine de cigar box avec des enfants. Enfin, c'était impressionnant et on avait encore de la demande et on a dit non, là, on peut plus, on sature. Mais chaque année, on essaye de mettre soit des concerts pédagogiques, soit des animations, des ateliers. Et bon, cette année, vu la situation actuelle, c'était compliqué de mettre ça en place avec des écoles. Donc on a dit, cette année, on ne fera pas. On fera plutôt, on va axer plutôt sur les masterclass. Donc voilà.
Il y a aussi un film qui sera projeté sur Billie Holiday, donc le 23 octobre, ouais, au cinéma Le Bretagne à Saint-Renan. Pourquoi faire ce choix ?
Alors, ça, c'est le cinéma qui a choisi le film. On est en partenariat avec eux pour l'ouverture. Donc, il y a Fred Chapelet qui fera un set en solo. On va présenter le programme. Et après, il y a le film du cinéma. Et là, ils ont fait ce choix qui est un excellent choix. C'est un film qui est sorti il y a le 30 septembre, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la vie de Billie Holiday, c'est une des légendes du jazz et du blues aussi. Enfin, là, c'est pareil, elle a une vie incroyable, quoi. C'est pas une vie, c'est des vies, quoi. Et avec des archives rares, il y a des extraits, des interviews aussi qui sont vraiment intéressants. Et c'est plus un documentaire sur la vie de Billie Holiday. Et on essaye toujours d'avoir un film en relation avec le blues. Et donc l'an dernier c'était sur Aretha Franklin et cette année c'est Billie Holiday et on est très content de ce film que ce film passe à l'ouverture.
Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez porter avec le festival ?
Alors le message, moi, ça serait par rapport au Covid. Je dirais n'ayez pas peur de venir. On a pris toutes les précautions qu'il faut pour suivre le protocole sanitaire qui est mis en place et donc c'est vrai qu'on est en zone verte, c'est vrai que si on suit bien le ministère de la Culture, on n'a pas de distanciation, c'est-à-dire que la distanciation n'est pas obligatoire, le masque est obligatoire, mais pas la distanciation. Mais pour rassurer certaines personnes, on a mis des espaces où les gens pourront être distants des uns des autres. Dans chaque salle, il y aura des espaces où les gens pourront être distants les uns des autres. Mais sinon, j'ai envie de dire, venez écouter. Ça manque tellement. Il est temps de reprendre le chemin des concerts, quoi. Il faut arrêter. C'est la mort sociale. Sinon, il faut sortir. Il faut prendre du plaisir. Il faut rire. Il faut applaudir. Il faut avoir des émotions. Et nous, on est là aussi. C'est notre leitmotiv aussi de procurer ce plaisir-là, quoi.
Oui, les groupes sont. Ah bon, on a beaucoup apprécié le fait qu'on n'ait pas choisi au mois de mars déjà d'annuler ce qu'on avait déjà prévu parce que la programmation est prévue déjà depuis l'hiver dernier. Ouais. Donc voilà. Et bon, on va voir selon l'évolution des
hein. Oui, c'est sûr qu'on va voir au fur et à mesure. Donc je dirais aux gens d'aller soit sur le site, soit de s'inscrire sur la newsletter. Il suffit sur le site d'aller sur le site aussi. Ils peuvent s'inscrire directement sur le site. Et on mettra au jour le jour l'évolution du festival. Mais a priori, pour l'instant, il n'y a aucun concert qui est annulé. On verra bien, suivant ce que dit Macron demain, ou nous, ce soir, je ne sais plus.
C'est ce soir, c'est ça.
Ce soir.
Ben, merci beaucoup à toutes les deux. C'était donc Isabelle Gibault, qui s'occupe de la programmation, et Fabienne Leca, qui est la présidente de l'association Hot Club Jazz Iroise, qui organise le festival, donc le festival Aber Blues, qui aura lieu du 23 octobre au 29 novembre, et dont vous pouvez retrouver toute la programmation sur leur site. D'ailleurs, toutes les musiques que vous entendrez dans la quotidienne aujourd'hui seront celles des musiciens présents au festival. Et en parlant de musique, on écoute tout de suite I Have To Go de Fred Chapelier.
Another blue sunrise, and she feels so alone. Another dark midnight, and still not home. We talk on the phone. I try to explain. You've got to hang on, baby, 'cause I'll be back someday. I'll be back someday. She's so tired of waiting. And I know what she's gonna do. She said it's been too long. That I've been sleeping without you. Was me or the road. I don't wanna leave you, baby, but it's time. It's time for me to go. It's time for me to go.
Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites, et c'était le titre I Have to Go de Fred Chapelier. Et maintenant, on va parler d'Erasmus et de bilinguisme. Pour ça, on accueille des étudiants qui sont tous les deux partis en Erasmus. Esteban Gramazo, bonjour.
Bonjour.
Donc Esteban qui est parti deux semestres à Cadix en Espagne, et Elisabeth Murphy, bonjour.
Bonjour.
Donc Elisabeth qui est partie en Erasmus en Allemagne, et qui a aussi été jeune fille au pair en Espagne. Et avec eux, Isabelle Lagatu, bonjour.
Bonjour.
Isabelle qui est directrice du pôle langue, et qui est aussi membre du comité identité de CIU. Esteban, tu as passé deux semestres en Erasmus à Cadix. C'était quoi ton niveau d'espagnol avant de partir ?
En réalité, j'ai plutôt passé un semestre à Cadix parce que je suis rentré à cause du confinement, donc juste au début du second semestre. Au début, j'avais un niveau qui se situait entre A2 et B1, donc j'avais perdu, c'était bien ma langue LV2 au lycée. J'avais un peu perdu de niveau, ce qui est normal vu que j'en avais pas fait pendant 3 ans.
Et pourquoi tu as décidé de partir en Erasmus ?
C'était avant tout pour aller à la découverte d'une nouvelle culture, faire des rencontres, partager des moments intéressants avec des personnes qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
Quel retour tu peux faire sur cette expérience?
C'était très intéressant. Je dirais que c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde, de vivre au moins une fois dans sa vie. Au moins d'essayer, de tenter. C'est pas... Il ne faut pas vraiment avoir peur d'aller vers l'inconnu.
Et est-ce que tu dirais maintenant, avec du recul, que ton niveau il a évolué grâce à ce semestre que tu as passé à Cadix?
Oui, complètement. Je dirais tout d'abord au niveau de la langue. J'ai réellement évolué dans mon niveau en espagnol, mais aussi au niveau intellectuel, que ce soit un petit peu dans la recherche de ce qu'on veut faire plus tard, d'essayer de comprendre vers quoi on veut se diriger. Donc c'est vraiment intéressant sur ces deux aspects-là.
En termes de maturité aussi peut-être, en termes de relations?
Oui, complètement. On est obligé de devenir quand même beaucoup plus autonome que quand on est dans sa zone de confort.
D'accord. Et comment tu te positionnais sur place en termes de niveau par rapport aux autres élèves?
Faut savoir que le premier jour, je me souviens très bien, quand je suis arrivé, je ne comprenais absolument rien. Vraiment rien, c'est complètement différent de tout ce qu'on a pu voir en cours. Mais rien qu'au bout de 2 semaines, on peut commencer déjà à avoir des améliorations, parce que le fait d'être en immersion complètement, ça fait progresser très rapidement.
Et est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es vraiment plus à l'aise en espagnol?
Oui, complètement, même si j'ai passé au final que entre 3 et 4 mois là-bas, donc ce qui est vraiment très peu, j'ai quand même énormément progressé comparé au niveau de base que j'avais.
C'est quoi ton meilleur souvenir de ce semestre à Cadix?
Oh là là, c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y en a beaucoup, mais c'est peut-être les petits déjeuners sur la plage le matin, avant d'aller en cours. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable.
Du coup, c'est une expérience que tu recommanderais?
Oui, bien sûr, à n'importe qui a un petit peu d'audace. Et je dirais qu'il n'y a pas forcément d'avoir un niveau intellectuel incroyable, il faut juste oser, et c'est vraiment le plus important.
Est-ce qu'il y a des moments pendant ce semestre en Espagne où tu as pu regretter ton choix parce que c'était trop difficile, que c'était vraiment compliqué de suivre les cours, de s'intégrer tout simplement?
Oui, les premiers jours. En arrivant, en fait, on est un petit peu émerveillé par tout ce nouveau monde, mais après, quand on arrive à l'université, il y a forcément le contre-coup où on se rend compte qu'on ne comprend rien. Mais ça, en fait, ce qui m'a permis de surmonter ça, c'est que tout simplement, dans les jours qui ont suivi, on s'améliore et on le voit. Donc on se rend compte qu'au final, c'est très accessible et qu'on peut continuer dans cette voie-là.
Aujourd'hui, si tu avais à décrire ton niveau d'espagnol, tu dirais que tu as quoi comme niveau?
J'avais fait un test, il me semble, même si les tests, en réalité, je trouve pas ça très fiable, parce qu'il y a quand même la réalité du terrain qui est très importante. Il me semble que j'étais entre B2 et C1. Donc c'est quand même une nette amélioration pour entre 3 et 4 mois, sachant qu'en plus il y a un facteur aggravant, c'est que j'ai passé du temps avec des Français là-bas. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je veux donner à ceux qui partent en Erasmus, essayez quand même d'aller plus vers d'autres groupes que ceux dans votre zone de confort.
Donc là, ce que tu expliques, c'est que tu restes avec des Français, et l'Espagne, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de gens qui parlent anglais... Une ville, n'importe quoi. L'Espagne, c'est un pays, où les gens peuvent quand même pas mal parler anglais. Est-ce que tu as aussi progressé en anglais de ce fait ou...
Oui, complètement. Notamment en faisant des voyages Erasmus, donc qui étaient organisés, qui nous coûtaient forcément moins cher. Et c'était l'occasion de rencontrer un petit peu des étudiants Erasmus de toute l'Espagne. Et c'est là qu'on se mettait un petit peu à parler anglais. Ça permettait de réellement progresser et je l'ai bien senti en arrivant en France, ici.
Et du coup, donc, tu parlais français, anglais, espagnol. Est-ce que tu as quand même l'impression que tu as plus parlé espagnol sur place qu'en français ou en anglais ou pas?
Oui, complètement. Parce que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pris un logement avec en fait, 2 Espagnols. Donc le fait de vivre avec des Espagnols au quotidien, tout le temps, c'est vraiment quelque chose... On est en pleine immersion, on regarde la télé en espagnol, quand on se balade dans la ville... tout est en espagnol en fait. Et il faut vraiment faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui est écrit.
Elisabeth, toi tu as fait un Erasmus en Allemagne pendant tes études.
Oui.
Et tu as aussi été jeune fille au pair en Espagne. À quoi correspondait ton niveau dans les deux langues avant de partir?
Mon niveau de...
Ton niveau d'anglais et ton niveau de... ton niveau d'allemand et ton niveau d'espagnol.
Mon niveau d'espagnol avant de partir, c'était B1, B2.
et pareil en allemand avant de partir. Mais quand je suis arrivée en Allemagne pour mon Erasmus, j'ai fait un crash course. Donc c'était 3 semaines avant, c'était obligatoire pour les étudiants Erasmus pour faire des cours chaque matin, de 8h du matin jusqu'à midi, en allemand, pour améliorer notre niveau avant d'aller en cours. Pourtant, plusieurs de mes cours étaient en français, espagnol ou en anglais, parce que moi j'étudie des langues, donc du coup les cours étaient dans les langues cibles.
Est-ce que tu as l'impression que ton échange Erasmus en Allemagne t'a permis de plus progresser dans la langue par rapport à ton expérience de jeune fille au pair en Espagne, ou alors l'inverse?
C'était l'inverse. En fait, j'ai beaucoup plus amélioré en Espagne en tant que jeune fille au pair, parce que j'étais dans la famille, dans la famille qui parlait tout le temps en espagnol, et j'ai parlé avec les enfants aussi. Cependant, quand j'étais en Erasmus, j'ai parlé en anglais, en français ou en espagnol, parce que mes amis étaient espagnols ou français. Du coup, on a parlé dans leur langue ou dans la mienne, mais presque jamais en allemand, en fait. C'était que à l'université que j'ai vraiment parlé en allemand, ou dans la ville quand j'ai sorti.
Et avec du recul, t'aurais aimé parler beaucoup plus allemand?
Oui, parce que quand je suis revenue après, j'ai dû continuer mes études en allemand. Mais je ne regrette pas d'avoir parlé avec les autres dans leur langue. Mais je pense que j'aurais pu faire un effort pour peut-être faire partie plus des sociétés avec des étudiants allemands, par exemple.
Et du coup, quand tu es revenue, que ce soit d'Allemagne ou d'Espagne, c'était quoi ton niveau dans ces deux langues?
C'était plutôt C1. Après, j'ai jamais fait un examen pour faire, mais après j'étais beaucoup plus à l'aise en parlant et en écrivant aussi, et mon compréhension a amélioré beaucoup dans les deux langues.
Et c'était quoi tes peurs avant de partir, que ce soit pour le fait d'être jeune fille au pair en Espagne ou de faire un Erasmus en Allemagne?
Je dois avouer que j'avais pas vraiment des peurs avant de partir en Erasmus, parce que la première chose que j'avais fait, j'avais fait un stage. Donc c'était avec des Irlandais. Là, je dois avouer que j'ai beaucoup parlé en anglais avec. C'était à Paris, donc j'ai beaucoup parlé en anglais. Pendant mon expérience en Espagne en tant que au pair, j'avais hâte de découvrir un autre pays. Donc j'avais pas vraiment peur d'aller dans un pays que je connaissais pas. Et je dois avouer qu'après avoir travaillé en tant qu'au pair et avec un stage aussi, j'avais trop hâte de partir en Erasmus, parce que je savais que ça allait être plus près d'une vie étudiante qui me manquait vraiment. Et j'avais raison, parce que quand je suis partie en Erasmus, j'étais vraiment encadrée par des associations Erasmus qui ont organisé des sorties ensemble, qui ont fait des week-ends dans des villes proches de Paderborn où j'ai fait mon Erasmus. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. J'avais pas raison d'avoir peur. Peut-être pour trouver un logement, mais j'ai trouvé vite fait grâce à l'université, parce qu'ils ont organisé des logements étudiants. Donc c'était sur le campus. Donc c'était bien, parce que j'étais toujours près de mes amis. Après, oui, il y avait la peur de la langue aussi, mais je savais que en tant qu'anglophone et en tant que quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer avec une langue qui n'est pas la mienne, j'avais pas forcément peur de ne pas faire des amis. Mais je comprends que ça peut être un souci. Mais en général, les étudiants qui partent en Erasmus ont aussi besoin et ont envie de faire des connaissances aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être seul.
Et tu parlais du coup des différentes sorties qui pouvaient être organisées par les associations en Allemagne. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a plus fait parler allemand par rapport aux cours, ou l'inverse?
C'était l'inverse, parce que c'était plutôt avec mes amis d'Erasmus. Les étudiants, c'était les étudiants qui l'ont organisé. Les étudiants étaient allemands, mais eux, ils ont aussi fait un Erasmus des années auparavant. Du coup, ils ont organisé des choses, des sorties pour des étudiants Erasmus, pour faire aussi connaissance des étudiants Erasmus, parce qu'ils avaient toujours envie de revivre cette expérience, même quand ils étaient dans leur pays. Du coup, ça leur a fait ça un peu avec les étudiants Erasmus.
Et est-ce que partir, que ce soit en Allemagne ou en Espagne, ça t'a permis de gagner de la confiance en toi, parce que voilà, tu pars dans des pays où certes tu parles un peu la langue, mais t'es pas totalement bilingue.
Oui, parce que je ne veux pas dire qu'on est seul quand on part, mais il faut être indépendante. Si on rencontre un problème, il faut trouver aussi une solution. Mais j'ai trouvé que quand je suis rentrée chez moi en Irlande, après avoir passé un an dans des autres pays, je ne peux pas dire exactement ce qui a changé en moi, mais il y avait quelque chose. Et même après, quand je suis retournée chez moi en Irlande, j'avais envie de repartir presque tout de suite. Bien sûr que j'ai mes amis et j'ai ma famille en Irlande, mais les expériences à l'étranger, c'est pas pareil que vivre dans son propre pays. Ça change, ça vous permet de vraiment vous émerger dans un autre pays, dans une autre culture, et ça vous permet de vraiment vivre, en fait.
Et si là, maintenant, je te disais que tu pouvais repartir, est-ce que tu le ferais et où tu irais?
Je ne sais pas. Pour le moment, je suis déjà en France, donc déjà, c'est pas dans mon pays, mais j'ai presque envie de retourner en Espagne. Je trouve la culture formidable. Je pense que les gens sont super sympas. J'aime bien leur ton aussi et les plages. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Je suis bien installée en France, mais je pense qu'avant de m'installer quelque part pour vivre, j'aimerais bien voyager un peu. Donc, peut-être Asie ou l'Afrique, mais je vais sûrement voyager. Quand le coronavirus sera bien fini.
On espère que ce sera pour bientôt. Est-ce que l'Allemagne comme l'Espagne, c'est des pays qui t'attiraient depuis toujours, que tu rêvais de visiter? Ou est-ce que tu es partie sans connaître quoi que ce soit de leur culture et donc presque sur un coup de tête?
Non, en fait, pour moi, parce que j'ai étudié les langues étrangères appliquées, c'était obligatoire de partir dans un pays qui était francophone ou qui parlait espagnol. Donc ça pourrait être l'Amérique du Sud ou ça pourrait être Espagne. Donc pour moi, j'ai choisi ces pays parce que c'était dans l'Europe et que je ne connaissais pas vraiment les pays déjà de l'Europe. Donc pour moi, oui, j'ai choisi ces pays, mais je savais déjà leur politique, leur société, leur culture un peu par les études que j'ai dû faire avant de partir, par des modules que j'ai fait avec ma licence. Mais bien sûr que je ne savais pas exactement leurs coutumes, leur façon de parler. Donc, par exemple, je ne savais pas l'étiquette qu'il faut toujours avoir dans un certain pays. Mais je suis quelqu'un qui est vraiment ouverte et qui est prête à m'adapter. Et donc, ce n'était pas difficile.
Et est-ce que, justement, que ce soit toi ou Esteban, vous diriez tous les deux qu'il faut vraiment être prêt à s'adapter et à quand même changer un peu une fois qu'on est dans le pays qui nous accueille?
Oui, moi je dirais complètement, parce que on va forcément changer tout simplement en changeant de pays. Notre comportement change. Il faut être plus audacieux, il faut plus essayer d'aller vers les gens. Mais ça se fait plus ou moins naturellement, parce qu'on n'y est pas obligé. Mais c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu nécessaire dans le quotidien, en fait.
Oui,
tu dirais pareil?
Oui, et moi je suis bien d'accord. Il faut être prête à adapter. Bien sûr que nous n'avons pas changé nous-mêmes, mais en même temps, il faut être prête à apprendre des autres. Et je pense que même sans vraiment savoir ou prendre en conscience, les expériences à l'étranger vraiment nous changent. Et c'est cela qui est vraiment riche avec l'Erasmus, c'est que vous êtes encadré dans une expérience qui est à l'université, donc c'est quelque chose que vous avez choisi de faire, que vous rencontrez des gens qui viennent de tous les pays d'Europe. C'est vraiment une vraie belle expérience, et c'est toujours dans la vie d'étudiante, mais vous êtes plus indépendante, plus autonome, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette comme expérience.
Et est-ce que tu as des anecdotes que tu as vécues sur place par rapport à la langue dont tu pourrais nous parler?
Ah oui. Mais plutôt en français, j'avais toujours des choses que je disais en français qui n'étaient pas du tout correctes. Malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas toujours polies, mais c'est des choses qui ressemblent souvent.
Tu as un exemple?
Oui. Si vous pensez à l'oiseau canard, j'ai dit un mot qui était un peu plus pareil. Après, il y a toujours des choses par exemple, Oui, il y a plusieurs choses que j'ai dit qui sont très très proches. Et après, c'est une façon d'apprendre. Quand tu dis l'erreur, tu vas pas la refaire.
Et tout de suite, on écoute Land of Nod de Elliot Murphy.
Longer than the rest in the open field where the lightning has the best chance of getting hit, of getting blessed out in the land of love, of getting blessed out in the land of love, of getting blessed out. Like the universe doesn't pay to the high and mighty and the down and out, to the last man standing and the first man out of the game. Are your mistakes coming back? They're like rabbits jumping out of a hat, and that's the hat you wore when you were on the floor. Rolling and tumbling just once more for effect, like the president-elect. Of getting blissed out in the land of love, you're getting blissed out in the land of love, of getting blissed out. Change the course of fate. Who do you hate besides yourself? And what else? You're getting blissed out in the land of love. You're getting blissed out in the land of love. You're getting blissed out in the land. Blissed out in the land, oh, blissed out in the land of Nod.
Vous êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites et on est toujours avec Esteban Gramozo Elisabeth Murphy et Isabelle Lagatu, qui sont là pour nous parler du bilinguisme et d'Erasmus. Isabelle, est-ce que vous considérez qu'il faut avoir un niveau de langue minimum pour partir ?
Non, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Esteban et Elisabeth pour dire que le niveau de langue n'est pas important. Parce que souvent, déjà, quand vous allez dans un pays anglophone, je pense que la plupart de nos étudiants ont déjà un niveau A1, A2 qui va leur permettre de se débrouiller. S'ils vont dans un autre pays, il y a souvent des stages intensifs qui les préparent. Et puis ensuite, l'immersion fait qu'ils vont très vite progresser, être obligés de progresser. Et donc, le niveau de départ n'a aucune importance. Il faut y aller, comme ont dit les deux étudiants.
Et je me demandais, souvent au cours de nos études, on fait passer des tests de style le TOEIC, le TOEFL, etc. Est-ce que c'est des tests qu'il faut passer avant de partir en Erasmus ou pas du tout ?
Alors, ça dépend ce que demandent les universités. Certaines universités demandent un niveau, demandent qu'on ait le niveau B1 ou le niveau B2. Après, c'est souvent négociable. Alors moi, je ne vais pas faire de la pub pour le TOEIC et le TOEFL, qui sont des certifications privées, parce que je m'occupe du CLES, qui est le certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur, organisé et fait par les universités, et qui est gratuit pour la plupart de nos étudiants. Donc, c'est plutôt le CLES, et on propose justement le CLES et d'autres choses pour les étudiants qui partent en mobilité. On les encourage à valider leur niveau s'ils le veulent, ou si on leur demande de valider un niveau. C'est absolument pas obligatoire, mais s'ils souhaitent le faire, travailler sur leur niveau avant, ils ont cette possibilité-là, et la certification leur est offerte gratuitement, en espagnol et en anglais.
Non, c'est bon à savoir. Quel conseil, que ce soit linguistique ou autre, vous pouvez donner aux étudiants qui vont partir à l'étranger, tous les trois ? Je ne sais pas qui veut commencer.
Moi, déjà, je dirais, suivre leur cours de langue à l'université, c'est la base. Ensuite, nous, on propose au Pôle Langue des ateliers de conversation et d'échange qui sont animés par des étudiants natifs, donc ils sont eux-mêmes à Brest par Erasmus ou qui sont primo-arrivants, et pour qui c'est à la fois l'occasion de rencontrer des étudiants autres que des étudiants de leur nationalité, et c'est aussi pour nos étudiants l'occasion d'échanger dans plusieurs langues. Et ça, c'est vraiment très important, parce que ça leur permet de se mettre à l'aise, de préparer la mobilité. Donc ça, je pense qu'il faut, quand on prépare une mobilité, il faut un an avant commencer à envisager de faire autre chose que des cours. Ils peuvent également évidemment travailler sur Internet, écouter, regarder des séries en anglais ou dans une autre langue, la langue du pays d'accueil. Tout est bon à prendre. Et puis rencontrer, essayer de rencontrer des étrangers. Donc cette année, on a la chance d'avoir Elisabeth qui est lectrice pour les étudiants non linguistes, justement. C'est la première fois que ça nous arrive d'avoir une lectrice pour des étudiants de STAPS, de sciences, de l'IAE, etc. Et pour le personnel également. Et donc Elisabeth dédouble des cours, ce qui fait qu'elle allège les cours pour les profs, et les profs peuvent proposer d'autres activités aux étudiants, et les étudiants peuvent se rapprocher d'une étudiante étrangère, enfin qui n'est plus étudiante d'ailleurs, qui est lectrice.
Esteban, des conseils ?
Oui, bah, pour revenir sur ce que disait Isabelle, je suis d'accord que c'est très important de suivre les cours. L'université met également en place des cours intensifs, par exemple, d'une semaine ou des choses comme ça. C'est excellent pour la confiance. Mais en plus de ça, on peut, au jour d'aujourd'hui, se retrouver face à face avec un professeur, un très bon pédagogue, simplement en utilisant YouTube. Tout simplement, sur YouTube, vous pourrez retrouver d'excellents cours d'espagnol qui vous permettront de progresser, parfois encore mieux que dans une salle de classe.
T'as un nom peut-être de chaîne YouTube à suivre pour des étudiants ?
Je sais plus exactement c'était quoi le nom. Il y avait un... Non, je pourrais pas vous dire, mais... Non, je pourrais pas vous dire.
Et toi, du coup ?
Pour moi, mon conseil avant de partir, c'est juste de ne pas réfléchir trop à ce que vous allez faire et juste de partir. Ne pas demander est-ce que c'est vraiment le bon choix. Juste dire oui à toutes les choses qui allaient vous arriver. Quand vous arrivez dans le pays, dire oui à toutes les sorties en week-end. Dire oui à aller voir ses nouveaux amis. Dire oui à le cours de langue qui va vous aider. Dire oui à toutes les choses qui sont offertes. Car après, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter toutes les choses que vous allez vivre dans un pays étranger. Mais vous allez regretter de dire non. Et de rester chez soi et de juste continuer dans votre façon de faire. Vous pouvez toujours faire ça toute votre vie. L'Erasmus, c'est une expérience. Pendant 6 mois ou un an, que vous devez faire dans votre vie.
Il faut profiter,
à fond. Oui, à fond. Il faut des oui.
Et du coup, en termes de conseils, de préparation, est-ce que vous avez été aidé par des bourses? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder avant de partir? Comment ça fonctionne?
En fait, c'était super facile parce que tout le monde a le droit de... Quand vous venez d'un pays européen, vous avez le droit à une bourse. Donc, vous n'avez presque rien à faire. Il faut remplir un formulaire. Et après, vous êtes payé... Je pense que c'est la plupart, c'est à la fin de votre Erasmus. Après, quand vous avez validé, je pense que c'est 70% après. Mais la bourse, normalement, ça paye votre logement. Et aussi, c'est une bourse pour vivre dans le pays étranger. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas pouvoir payer de vivre dans un pays qui est peut-être plus cher que votre pays. Parce que la bourse n'est pas la même pour tous les pays. Par exemple, ce que vous avez en Allemagne, ce n'est pas pareil qu'en France. Et ça dépend aussi des pays d'où tu viens.
Et est-ce que vous, en tant que professeur Isabelle, mais aussi juste en tant qu'adulte qui travaille à l'université, vous voyez une différence sur le avant-après, par rapport aux étudiants qui sont partis?
C'est évident, ils ne sont plus les mêmes. En fait, non seulement ils sont plus à l'aise, moi je suis prof d'anglais, donc en anglais, ils font peut-être tout le temps autant de fautes, mais ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient capables de communiquer et qu'ils n'aient plus peur de s'exprimer. Ils ont compris qu'ils pouvaient d'une façon ou d'une autre faire passer le message et que ce n'était pas grave d'oublier des S. Évidemment, nous, on va essayer de corriger ça, mais ce n'est pas grave. Ils n'ont plus peur de s'exprimer. Ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus prêts à s'occuper des autres étudiants. Ils s'impliquent beaucoup plus dans des associations. Je vous assure qu'ils sont complètement différents. Et puis surtout, ils n'ont pas peur de parler, quoi. Et c'est extraordinaire, ça.
Et Stéphane, toi, c'est quelque chose qu'on a pu te faire remarquer, que tu avais changé?
Oui, complètement, que ce soit au niveau de mes amis ou de ma famille. Pas encore les professeurs, car j'ai changé d'études. Mais néanmoins, dans tout mon entourage, ils ont tous été unanimes sur les changements, que ce soit aussi bien mental qu'au niveau des comportements, aller vers les autres, aider les autres. Par exemple, cette année, on accueille des Erasmus dans notre classe et je me sens pas obligé, mais ça me fait extrêmement plaisir de les accueillir et de leur montrer un petit peu que nous aussi, en France, on est capable de faire preuve de bonne volonté et d'être accueillants.
Et est-ce que vous diriez que c'est plus intéressant de partir quand on parle déjà pas mal la langue, ou alors l'inverse, quand on ne parle pas du tout la langue?
Dans les deux cas.
Oui.
Ça apportera dans les deux cas énormément. Quand on est linguiste et qu'on doit partir, évidemment, on est plus à l'aise, mais on va pouvoir apprendre autre chose, peut-être. Mais quand on est non-linguiste et que maintenant on peut partir, il faut vraiment en profiter, parce que c'est l'occasion ou jamais. Donc je dirais qu'il n'y a pas tellement de différence, il faut y aller.
Oui. Et au niveau des cours sur place, comment ça se passe? Parce que tous les étudiants n'ont pas forcément le même niveau en termes de langue et puis même dans la matière en question. Comment vous avez pu gérer ça, vous?
par rapport donc aux cours qui se sont passés là-bas, c'était très intéressant parce que déjà, nous, on nous a donné la possibilité de choisir notre niveau de classe. Donc, vous pouvez choisir un niveau L1, L2 ou L3. On a fait le choix de prendre un petit peu de chaque pour tester ce qui allait moins bien. Et on s'est rendu compte qu'à peu près à tous les niveaux, ça passait plutôt bien. Et c'était aussi une autre pédagogie, une autre méthode d'enseignement qui était vraiment très intéressante, qui était beaucoup plus, axée sur l'humain. Donc beaucoup plus dans tout ce qui est travaux pratiques. Et comparé à la théorie, c'est vraiment l'aspect qui m'a paru le plus intéressant.
Et toi, Elisabeth?
Pour moi, ça a été un peu différent parce que moi, j'ai fait des cours des langues. Donc, du coup, moi, j'avais pas trop la difficulté de trouver les niveaux qui me correspondaient. Pourtant, ce que j'avais fait en cours pendant mon Erasmus, c'était pas pareil que je faisais à mon université en Irlande. En Irlande, c'était plutôt la traduction, la littérature et l'interprétariat. Pourtant, en Erasmus, c'était plutôt la grammaire, donc en allemand, en espagnol et en français aussi. Donc, c'était pas exactement le même. Cependant, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les étudiants, mais mon université, pour moi, c'était pour valider le semestre, mais les notes ne comptaient pas. Donc, à la fin, si j'avais mention très bien ou bien ou assez bien, ça comptait pas, il faut juste valider le semestre. Donc, si peut-être les étudiants ont peur de ne pas réussir ou que ça va affecter leur mention à la fin de leur licence, c'est peut-être pas le cas. Mais à mon avis, c'est assez facile de trouver les cours qui correspondent à l'université d'où il vient.
Esteban Gramozo, Elisabeth Murphy et Isabelle Lagatu, merci à tous les trois. Donc ils étaient là pour parler du fait de faire Erasmus sans forcément être bilingue au début. Mais les Erasmus Days, ce n'est pas encore fini et on se retrouve demain à la même heure pour parler cette fois de l'université européenne CEU en construction. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, en partenariat avec la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. Le 3 novembre, les habitants du quartier du Blône à Rennes sont invités à venir construire le projet de centre de santé communautaire du quartier, porté par 5 femmes professionnelles de la santé. Ils pourront répondre aussi à leurs interrogations, notamment sur le terme « communauté », pas toujours à la mode.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Des questions à poser, ça pourrait être comment vous souhaitez vous impliquer ou comment vous souhaiteriez que les habitants s'impliquent dans le projet. Et puis la question de l'adhésion. Qui pourrait adhérer à l'association, qu'est-ce que ça veut dire être adhérent de l'association? Ouais. Ça, je les vois un peu plus comme des relances, peut-être. Faudrait qu'il y ait qu'une seule question.
Ouais.
Parce que sinon, ça va partir un peu dans tous les sens. Ouais. Et puis que chaque groupe puisse voir ce qu'a noté le groupe précédent, puis compléter, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est important, je pense, de faire une intro. Une intro sur le centre de santé communautaire, il est associatif, une association, ouais. C'est ça, ça veut dire qu'il y a des salariés, ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration, ça veut dire que dans le conseil d'administration, ouais. Il y a tel et tel type de personnes, donc les habitants, est-ce qu'il y a des salariés, est-ce que c'est les professionnels, mais les professionnels c'est qui, je pense qu'il faut faire un petit rappel sur le statut associatif, ouais. Ce qui n'est pas forcément connu de tous et toutes. Ouais.
Un centre de santé communautaire, le mot peut faire peur également. Est-ce que vous l'observez quand vous présentez le projet? Parfois, il y a des interrogations autour de cette notion.
Oui, on a eu beaucoup de remarques sur ce terme de communautaire. Des remarques que nous ont remontées aussi des autres centres de santé communautaires avec qui on a pu échanger. Après, je pense que c'est vraiment le terme... faut pas prendre le terme communautaire tout seul. Faut vraiment prendre le terme de santé communautaire. Pour moi, ça signifie vraiment réfléchir à la santé à l'échelle d'un territoire, d'un quartier, en l'occurrence, celui du Blône. Ça signifie pour moi prendre en charge la santé dans une approche globale. Se dire que la santé, c'est pas juste ne pas avoir de maladie. C'est aussi se sentir en bonne santé. C'est aussi avoir l'accès à un logement décent, à une nourriture correcte, à la culture, etc. Et que c'est un tout. Et puis, dans la santé communautaire, on sous-entend aussi beaucoup la participation des habitants. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de leurs besoins, qu'on réfléchit ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble.
Mais vous êtes dans une démarche qui peut détonner, j'imagine, chez vos confrères et consoeurs libéraux. Ça étonne parfois quand vous parlez de ce parcours-là.
Alors on a rencontré probablement pas tous, parce qu'il y a quand même du monde, c'est un grand quartier, mais on a rencontré quand même beaucoup de professionnels des secteurs du secteur social ou des secteurs de la santé sur le quartier. Effectivement, ce sont des termes qu'ils connaissaient pas forcément, mais en fait en discutant, en expliquant, c'est plutôt bien compris et puis bien accepté. Bon, après il faut qu'on continue les échanges.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.